Et Claude Askolovitch, on parle d'Égypte ce matin.
Et le masque trois fois millénaire de Toutankhamon est à la une de Télérama pour nous préparer à l'exposition qui bientôt s'ouvre à la Villette à Paris autour d'un pharaon mort à 18 ans et qui est un mythe. En 1967, j'étais né. 1 200 000 visiteurs défilèrent devant ses trésors. Combien cette année pour ce jeune homme qui reposait, momie aux chairs friables, recouvert de 200 joyaux sous ses bandelettes, dans un sommeil inviolé au cœur de la Vallée des Rois, avant que des Anglais viennent tout ouvrir sa tombe et son sarcophage et viennent dépecer son corps pour en libérer les bijoux il y a 97 ans. Deux Anglais, dis-je, et je réalise ceci, c'est bien de l'Angleterre en réalité que me parle Télérama, et le journal et surtout le hors-série qui l'accompagne me montre cet Anglais en costume et nœud papillon sous le sommeil d'Égypte, Howard Carter, archéologue autodidacte et son partenaire de l'époque, Lord Carnarvon, que les ouvriers égyptiens appelaient Lordi, qui ensemble trouvèrent le secret. Le 26 novembre 1922, Carter éclaire à la bougie vacillante le trou qu'il vient d'élargir dans la porte du tombeau. Il voit se dessiner des formes, des statues et partout le scintillement de l'or. « Vous voyez quelque chose ?» demande Carnarvon. « Yes, wonderful things », répondit Carter. « Wonderful things ». Et de cette tombe, Carter allait sortir 5398 objets merveilleux que l'Égypte le réclamait, car le pays s'affranchissait alors de la tutelle britannique et rejaillit dans Télérama ce temps de colonialisme, mais aussi de découverte et d'enchantement. Et quand Lord Carnarvon mourut d'une piqûre de moustique infectée, naquit l'idée de la malédiction des pharaons. Sir Arthur Conan Doyle, papa de Sherlock Holmes, y croyait. C'était les fake news de nos ancêtres. Mais quelle Angleterre, mes amis, se fut. Et quelle pitié alors quittant Télérama de la voir pantelante, cette Angleterre dont la première ministre madame était en crise d'aphonie. Hier aux communes, insiste Libération au moment de défendre en vain son arrangement sur le Brexit. Dieu sauve l'Angleterre. 1 000 milliards de dollars ont déjà été transférés de la City vers l'Europe, dit le Figaro, mais il reste encore une flamme. Les Échos racontent l'Attorney General George Cox, conseiller juridique du gouvernement, qui a torpillé Madame May en expliquant que l'accord de la faune gardait le pays prisonnier de Bruxelles. Et cet homme shakespearien cite dans ses discours aussi bien Mick Jagger que John Milton, penseur du XVIIe siècle. « Je vois une nation noble et puissante qui s'éveille en secouant ses chaînes inébranlables. » Le journal libéral français L'Opinion vient à espérer l'arrivée au pouvoir du travailliste Corbyn, oui ce rouge, mais qui veut conserver avec l'Europe pour l'Angleterre, une union douanière. C'est d'Angleterre encore que vient la lumière dans le Figaro qui interroge, comme très souvent dois-je dire, un Anglais nommé Roger Scruton, qui croit en la beauté et au conservatisme, qui aime les vieux villages et ses familles que l'on dit bourgeoises. Il est l'héritier de Burke, un philosophe anglais qui détestait notre révolution, lui vilipende nos intellectuels de gauche dans un livre intitulé « L'erreur et l'orgueil ». Libération nous a rappelé il y a quelques jours que le titre original en anglais était plus cru, « Fools, Frauds, Firebrands, Bouffons, imposteur et trublion, voilà pour Sartre et Foucault. Lopes me disait en septembre que ce monsieur Scruton inspire aussi Laurent Wauquiez. L'Angleterre nous inspire, mais pas seulement des idées. Dans l'Yonne républicaine et le journal du centre coule un canal enchanteur, le canal du Nivernais, qui fut sauvé dans les années 70 grâce à des Anglais qui exploraient notre Bourgogne, comme jadis l'Égypte, et qui emmenèrent leur bateau flotter chez nous. Thanks, guys.
Et on parle aussi de polémique bien française.
Et Sud-Ouest, bonhomme, parle de la bonne vieille polémique des privatisations à propos de la loi Pacte et de la privatisation prévue d'Aéroports de Paris. Dans la dépêche, on me raconte la revente de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, dont le propriétaire chinois veut se défaire en faisant la culbute. Ça ne fait guère envie. Mais je lis dans le Canard enchaîné que le président Macron ne voudrait plus qu'ADP soit vendu à Vinci, ce géant du BTP qui a déjà tellement profité de la privatisation des autoroutes et qui donc ne serait plus politiquement acceptable. Comédie ? Nous sommes par moments en France à désespérer de nos propres valeurs. Liberté, il faut lire le dossier du journal sur internet Bastamag sur cette loi anti-casseurs que le Parlement a votée cette nuit. Fraternité, il faut lire dans le Maine Libre ce qui est arrivé à un vieux monsieur timide, hospitalisé au Mans pour un cancer du côlon et qu'on avait installé dans une chambre avec un déséquilibré qui avait renversé sur lui un bassin rempli d'excréments. On ne le lave pas, notre vieux malade, juste aux gants et sa peau est infectée. Égalité, je lis dans l'Est éclair que désormais les pompiers se feront payer dans l'aube pour enlever les nids de guêpes et de frelons de vos jardins. 160 euros le nid, avez-vous les moyens de ne pas être piqué? Le double s'il est en hauteur, parce que voyez-vous, les gens appellent trop, ils doivent appeler le privé, ainsi s'accumule l'idée de l'abandon.
Mais on parle aussi de beauté de la France.
Et même Léa de son génie. Il est ce génie d'enclos de Terouinard, octogénaire patron du département de l'Eure-et-Loire, qui hier au restaurant Drouan à Paris, temple des lettres, lançait « On n'est pas que des ploucs !» Et certainement pas, car l'Eure-et-Loire, terre rurale, présentait son printemps proustien qui déclinera autour de Marcel des lectures et des madeleines aussi, et c'est la une de l'éco-républicain. Notre génie est deux mots. Ces vieux mots du football que France Football ressuscite, souvenez-vous qu'on disait « le cuir, le demi-centre » et on tirait nos corners à la rémoise, et il y est, disait-on, pour un but. Ces mots aussi d'un autre conservateur, forcément dans le Figaro, encore Christian Clavier, qui dit de son partenaire Depardieu qu'il ne joue pas, il est, dans le dernier blié, qu'on voit exceptionnel, une errance mélancolique, dit le journal Le Monde, nous savons parler. J'en termine. À Clavier et Depardieu, qui ont joué Astérix et Obélix, je dédie cette histoire trouvée dans Paris-Normandie et sur France Bleu. L'histoire de la laine aînesse, femelle sanglier rescapée de la chasse, recueillie par un fermier de l'Eure et devenue mascotte de sa maison. Mais la famille a été dénoncée par des méchants et Nénès risque d'être abattue. Il faut sauver Nénès. On pétitionne.
Merci Claude Askolovitch pour la revue de presse.